Même audio, vous ne l'avez pas vu, vous pouvez l'entendre.
J'ai posé beaucoup de questions. Ce que l'on vous propose, c'est, j'ai un micro qu'on peut promener, c'est de réagir ou d'interroger Philippe à votre tour. On ne va pas utiliser les micros pour certains, vous en avez devant vous, on va utiliser celui-ci, puisque cette soirée est enregistrée et va donner lieu à un podcast que nous avons publié avec nos amis de Memaudio, M-E-M-A-U-D-I-O, voilà, sur lequel vous retrouverez de très nombreux contenus des productions des Chemins de la République, mais pas que, parce que bah, effectivement, on avait aussi envie que la parole...
Et ne soyez pas assommés par le sujet. Moi, je souris beaucoup, comme Maria Klimov-Tchernok. Parce que quand on parle de ça, on libère des choses, on ouvre des portes, des fenêtres, et on respire un peu mieux. Alors, je souris parfois.
Je vous présente Ali Théard, un des membres de l'équipe des Chemins de la République, qui a beaucoup travaillé sur l'organisation de cette soirée.
Alors, je voudrais parler de votre famille, de votre enfance. Vous avez dit qu'à un moment, vous avez dit, je ne fais pas partie de cette famille, c'est ça? Et donc, quelle ambiance était dans votre famille? Quelle ambiance, par exemple, est-ce que l'antisémitisme ressortait? Est-ce que l'idéologie nazie ressortait? Est-ce que tout ça ressortait? Quelle ambiance il y avait?
La peur.
La peur par rapport à...
Par rapport à ma mère, par rapport à mon père, par rapport au coup, par rapport au cri, par rapport à un père qui rentre dans votre chambre et qui met absolument tout par terre parce que le lit est pas bien fait comme au carré. Il est pas au carré, le lit. Tu sais faire un lit? Je suis allé dans une abbaye pour une nuit pas du tout convenue, mais j'ai fait mon lit au carré. Bon, la peur, après le mépris que vous prenez parce que vous êtes une merde, parce que vous êtes... voilà, c'est la peur. Voilà, je sais pas, parfois on a des... j'ai pas pu l'appeler papa ou je peux pas l'appeler papa, je sais ce que c'est qu'on m'appelle papa, je sais ce que c'est, j'ai 6 enfants. Mais... je sais pas ce que c'est. Voilà, je sais pas. Alors on me dit, oui, tu as dû l'appeler papa. Oui, j'ai peut-être dû l'appeler papa. Mais quand vous ne souvenez pas d'un seul geste tendre, d'avoir passé 2 minutes sur les genoux, il y a des pères comme ça, il y a des familles comme ça. Et il faut, j'étais avant-hier avec des lycéens, il faut le savoir. Il y a des parents qui sont incapables d'aimer leurs enfants. Voilà.
Monsieur, allez-y.
Oui, de l'eau a coulé sous les ponts entre 44, 45 et... d'après ce que j'ai compris, l'âge de votre naissance. Et à sa naissance, on n'est pas capable de faire des raisonnements, de se poser ces questions-là. Donc, il faut attendre une certaine adolescence. Donc, ça fait tard. Ma question, c'est... alors, moi, je suis plus âgé que vous. J'ai vécu des choses un petit peu semblables aussi, avec de la violence, de l'autorité, la culture du chef, etc. Et le mutisme. Et Je vais mettre une balise en 68, parce que 68, c'est pas n'importe quelle date quand même. Avant 68, ce sont des questions qu'on n'osait pas forcément poser et des sujets qu'on n'aimait pas. Et j'ai senti dans ce que vous disiez une certaine révolte face à votre père qui a été dur d'affronter peut-être. Mais est-ce que 68 vous a permis justement de libérer cette énergie ou est-ce que c'est indépendant?
En 68, pas encore. Je suis un môme, je suis au collège, je suis viré du collège parce que je mets trop de pagaille, parce que je vais en face au lycée où il y a le comité d'action lycéen. Oui, je suis en totale révolte. Je veux dire, c'est ce que je dis dans le livre. C'est pas la peine de réunir un congrès mondial de psychanalyse pour comprendre que je suis allé à Libération et que Libération était mon journal dès 73. Oui, en 68, pour moi, c'est une explosion de joie. Voilà, c'est une explosion immense de joie et de plaisir. Et Cohn-Bendit, qui deviendra un ami mais à distance, mais enfin un ami est un ami. C'est pour moi, c'est à l'époque, c'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Je vis un moment de grande libération. Voilà, de très grande libération. Et j'emmerde mes parents qui regardent ça effrayés à la télé. Pour moi, j'ai 13 ans, je suis petit, mais putain, quel bordel, quel plaisir maintenant. C'est immense. On était dans une société avec Pompidou. Non, mais vous, enfin, je pense que il y a un plus jeune que nous. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà. On vit dans une société totalement coincée, totalement verrouillée. Voilà. Non, pour moi, c'est extraordinaire. Après, je veux la libération, évidemment.
Quelle était la vie sociale de votre père ? Il travaillait, il sortait, il voyait des gens, des amis semblables à lui ou différents de lui, où il était facho ou...
Alors, c'est une bonne question. Maintenant, je ne peux pas répondre pour toute la période, je le raconte aussi dans le livre, pour toute la période de 45, qui va de 45 à 67, parce que les archives des renseignements généraux ont été détruites. Un jour, il rentre à la maison, il dit, il est heureux, et détendu, et amusé, et joyeux, et il dit à ma mère, ça y est, ils ont tout nettoyé, c'est Tixier. Cette enfance se grave dans ma tête. Enfin, tous, vous avez des souvenirs d'enfants, je ne sais pas pourquoi vous les avez gardés. Celui-là, je l'ai gardé. C'est Tixier, ils ont tout nettoyé. Ok. Je vais aux archives nationales, je demande le dossier des RG de mon père. Le mien, je l'ai vu. Il est ridicule, 30 pages. Ok. Le sien, il est vide. Vide jusqu'en 67 parce qu'il devient président de la Fédération nationale des promoteurs constructeurs. Il aimait bien les métiers où on se faisait détester. Et là, il y a une petite enquête financière des RG. C'est tout. Avant, rien. Un mec qui est LVF, Waffen-SS, qui, en 45, monte un petit complot pour essayer d'empêcher la tenue des élections législatives constitutionnelles, les élections constitutionnelles d'octobre 1945. Il essaye, il fait un petit complot, ça marche pas. C'est pour ça, qui est accusé de atteinte à l'extérieur et intérieur à la sûreté de l'État, va être jugé quand même en 50. Il y a un dossier, il y a quelques articles. Eh ben, il y a rien. Rien! Je l'ouvre. Rien. C'est extraordinaire. Donc je peux vous dire qu'il est devenu président, enfin promoteur constructeur, qu'il a construit des immeubles dans Paris, à la Poterne des Peupliers, à Poissy, à Libourne. Ouais, ça devient... Et ses amis, ben, c'est à la fois des amis qui n'ont rien à voir avec la guerre, mais beaucoup d'amis qui ont à voir avec la guerre. Voilà, je les ai dans mes listes aujourd'hui. Dans cette liste, ils y sont. Voilà. Donc... Et après, à la maison, il faut savoir que l'antisémitisme, on l'entendait, oui. Le racisme, on l'entendait, oui. C'était pas non plus... on n'était pas à l'école du parti nazi, hein, parce qu'il fallait quand même faire attention à ce que les enfants racontent à l'école. Ça, c'est un truc qu'il faut bien avoir en tête. Donc, il faut être prudent. Donc, on parle avec prudence. Et l'enfant, il est là, il comprend. Mais mis à part cette peur qui était sans arrêt là... c'était pas un cours d'endoctrinement, il n'y avait pas de croix à gammer hein, à la maison, il y avait beaucoup de Napoléon. Napoléon était le grand homme, mais il n'y avait pas de croix gammée, il n'y avait pas de sigle SS.
Vous l'aviez déjà évoqué un tout petit peu cette idée que j'ai là au début, mais je vais renouveler et voir comment vous allez me reprendre. En vous écoutant, moi j'ai l'impression nette d'une personne qui vient de traverser la vallée des horreurs. Et il faut être vraiment costaud, psychologiquement costaud, pour venir faire un compte-rendu de ce que vous avez découvert.
Je sais, on me dit vous avez eu du courage pour rédiger ce travail. D'abord, le courage n'est pas un mot qui me vient, parce que le courage, c'est autre chose, me semble-t-il. Bon, mais là où vous avez raison, ce qui est très étonnant, c'est le détachement d'un enfant. Le détachement d'un enfant. L'enfant dit « Je ne suis pas de cette famille, il faut que je me sauve. » Alors, élément très très important, vous avez raison de soulever cette question. J'ai un ailleurs, j'ai quelque chose en dehors de la famille. Pour moi, ça va être le temple, avec des mouvements d'éclaireurs unionistes, d'enfants louveteaux, etc. Donc le temple avec le pasteur. La semaine dernière, j'étais avec la fille du pasteur, ce qui est toujours une amie, c'était ma deuxième famille. Et je réalise qu'il y a une autre possibilité. Bon, il y a ça, et puis il y a le football. Le football, faut... quand on est enfant, c'est un monde merveilleux. C'est un monde merveilleux parce qu'on découvre qu'on s'amuse avec d'autres enfants. Camus l'a dit, ce que j'ai appris d'essentiel sur la morale, c'est dans le théâtre et dans le football. Et le football, pour moi, c'était merveilleux. On sortait de la maison et on allait... Donc ça, c'est deux éléments qui sont très, très importants. Le pire pour des enfants, ce qui me prend le plus, c'est des enfants qui sont enfermés dans des familles. Donc je pense que l'enfant, il a une espèce de capacité à se dire « Allez vous faire foutre, moi je suis autre chose ». Alors, à un moment, je suis écrabouillé. Je le dis dans le livre, je réalise « Bon, je vais être ouvrier horticole, hein, faire un CAP ». Et là, une dame me dit, après des tests psychotechniques, je suis en larmes, je suis au fond du jardin, elle vient me voir, elle me dit, vous n'avez rien à faire là. Alors, j'ai une chance, c'est que là, et là, il y a un cynisme de ma part, un cynisme de l'enfant, qui dit, j'étais dans un lycée protestant, parce que mes parents voulaient me foutre dans un lycée protestant, c'était une militarisation, j'ai toujours détesté cette façon de vouloir éduquer les enfants, et je leur dis, ok, maintenant, je veux travailler. Et donc, parce qu'ils ont encore de l'argent, pour 2 ans, j'ai beaucoup de chance, je vais dans une boîte à bac à Paris. Et là, je ne fais plus qu'une chose. Travailler. Et je m'en sors. Je sors avec un bac à 14, ce qui est inimaginable. 2 ans plus tôt, je sors de seconde, j'ai 4 de moyenne. Donc, vous avez raison, il y a une énergie incroyable. Je parlerai d'énergie. Et ça, beaucoup d'enfants l'ont. Il faut pas, c'est ça où des enfants sont brisés quand ils n'ont plus d'énergie. Moi, par chance, je sens que là, je vais y aller. Et mon père s'assoit, c'est raconté dans le livre, il s'assoit, il vient dans la chambre, il hurle pas, il n'est pas violent, et il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je me dis, bon, donc il parle à quelqu'un qui a un choix. Je suis plus une chose, je suis un objet qu'on déplace, ou je suis une personne, je deviens une personne. Et là, je vais à Nanterre rejoindre mes amis et je fais sociologie. Bon, voilà.
Monsieur, oui, je vais revenir toujours sur la famille. Vous avez eu un père ordinaire, c'est le titre. Vous n'avez pas eu une enfance ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez parlé de votre frère. Est-ce que votre frère, il est dans le même état d'esprit que vous? Il a été dans le même esprit d'état que vous? Et quelles sont vos relations avec lui aujourd'hui si c'était différent? Voilà.
Avec mon frère, on était à table. Nous étions, il y avait ma mère, il y avait mon père, il y avait un grand frère, mais qui était un peu séparé de la famille parce qu'il était beaucoup plus grand. C'était le fils de et puis bon, il va partir. Et bon. Il y avait mon frère, Jacques, et moi. Et là, on était ensemble, complètement ensemble. Complètement ensemble, très soudés, très proches, même si politiquement, on ne sait jamais. Lui était plutôt de centre-droit, ce qui me convient très bien. C'est un démocrate, c'est quelqu'un qui respecte la majorité, qui respecte les lois. Ça me va très, très bien. Donc, pendant des années, on a été assez proches, même distants, mais assez proches. On faisait des Noëls merveilleux, etc. Et puis, quand j'ai décidé d'écrire le livre, au bout d'un an, il m'a dit non. Il m'a dit non, c'est pas possible, et il a décidé qu'on ne se parlerait plus. Donc, on ne se parle plus. Je respecte sa distance. Il lui aussi dit j'ai pas aimé mes parents. Voilà, je les ai pas aimés. On n'a pas eu des parents qui étaient aimables, qu'il était possible d'aimer. Donc, on les a pas aimés. Mais il est toujours dans une autre... posture, moi je les ai vus jusqu'au bout, je le dis aussi, mais il était plus attaché à être prévenant avec eux, voilà, et il a été prévenant avec eux jusqu'au bout, moi aussi j'ai été présent mais pas prévenant, voilà, donc aujourd'hui le lien est cassé.
Alors, je vous propose qu'on prenne une dernière question, celle de monsieur, avant de clôturer. Et si vous le souhaitez, vous dirigez vers la table de librairie pour échanger avec Philippe ou lui demander quelques dédicaces, s'il est d'accord pour ça. Alors, voilà, monsieur.
Pardonnez-moi, la famille de mon père était protestante et je suppose que vous avez lu les carnets du pasteur Buckner, qui était à l'époque le pape du protestantisme et qui est allé à Vichy voir les gens qui s'occupaient particulièrement des questions juives et des francs-maçons et a donné est rentré en contradiction très nette de sa position de responsable de l'Église protestante. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mon père est protestant. C'est inconcevable qu'une mère anglaise, même s'il y avait des Britanniques et des Anglais fascistes, c'est assez inconcevable. Mais c'est comme ça. Il dialoguait avec son pasteur. Le lien avec dans le protestantisme, le lien avec le pasteur est essentiel et très très important. Il est le chef de la communauté, enfin pas le chef parce que c'est pas un mot qui nous vient, mais il est à la tête de la communauté et il a choisi d'aller aux côtés de l'Allemagne nazie. C'est pour moi totalement incompréhensible. C'est là où je dis je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais. Voilà, je comprends pas. Je dis ce qui s'est passé, comprendre, mais. Oui, c'est incompréhensible.
Alors, on va se dire qu'on se dirige vers la fin et qu'on se retrouve après pour échanger un petit peu. Je voudrais déjà vous remercier, vous, d'être ici, d'avoir participé, d'avoir posé des questions. Remercier l'équipe des Chemins de la République et plus particulièrement à l'ITR.
Oui, je veux insister sur... quand Ali m'a appelé, c'était il y a longtemps. Et j'ai trouvé ça assez touchant et assez étonnant parce que c'est un débat qui est extrêmement douloureux à monter et je suis agréablement surpris qu'il y ait autant de monde ce soir. C'est un truc impossible à monter.
Alors ce que je vais vous répondre, c'est que ce dont on avait envie sur l'équipe des Chemins de la République, pour vous proposer ça dans la programmation, c'est que ce moment serve à continuer d'interroger ce que nous faisons de notre mémoire collective. On est très sensible aux questions de mémoire, de transmission, parce que le Conseil départemental, l'Assemblée départementale l'est et nous permet d'exercer également nos métiers dans ce cadre-là, mais on est très attaché au portage de cette mémoire collective, non pas pour juger, non pas pour faire des cours d'histoire mais pour comprendre. Donc c'était effectivement le sens quand on a entendu parler de la sortie du livre, il était assez clair qu'on voulait faire quelque chose autour. Voilà, c'était une envie, donc merci à vous tous d'être venus, toutes et toutes. Merci Philippe Douroux pour ce livre courageux, nécessaire, pour votre parole qui relie l'histoire intime à la grande histoire, va-t-on dire. J'avais envie de conclure sur une citation, j'ai dit à Philippe là tout à l'heure. Philippe, dans votre ouvrage, vous écriviez « Ce n'est pas la vérité qui fait mal, c'est le silence ».
Ouais, c'est ce qui m'a effrayé à un moment, c'est le silence qu'il y avait sur cette affaire. Ça m'a mis en colère. Alors je sais ce que c'est qu'une colère, mais il faut la transformer, la colère. Et le silence, ça m'a terrifié. Voilà, il n'y avait pas, personne ne disait rien et personne n'avait écrit cette histoire. Voilà.
Merci Philippe et merci à vous tous.
Mémodio, une mémoire sonore. Mémodio, une mémoire sonore.